Et ce matin, juste pour que vous soyez attentifs, alors qu'on va être conduit par Mireille dans les Saintes Écritures, ce matin, on va assister à la naissance d'une communauté. On est dans ces trois messages que j'ai mentionnés la semaine dernière, où on a terminé le livre des Actes, mais on va aller faire ressortir des éléments super importants du livre des Actes. Et ce matin, on va assister à la naissance d'un peuple nouveau, d'une communauté. Et qui dit communauté parle de communion aussi ensemble. D'une communion avec Dieu, mais une communion ensemble aussi. Il parle de communautaire, de partage. Alors, je vous demande d'être bien attentif à la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre des Actes, au chapitre 2, versets 41 à 47, édition Louis II. Actes au chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur, pour venir nous chercher là où nous étions. Personne ici, dans son cœur, profondément, était pieux, te cherchait, Seigneur. Mais chacun, nous allions dans la vie en courant après nos propres objectifs, notre propre vie. Puis un jour, tu es venu nous parler de ton amour, Seigneur. Tu es venu nous parler de ton amour et tu nous as invités à entrer dans ta famille. Dans ta famille. Et tu nous as accordé cette grâce d'entrer dans la famille de Dieu. Seigneur, en étudiant les Actes, on voit cette communauté qui se démarque, Seigneur, par sa chaleur, par son amour, par son accueil, par son partage. Et combien, Seigneur, ce monde a besoin de voir cela. D'avoir cet endroit, cette oasis, où on peut aller se reposer au milieu de la famille de Dieu, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin de cette communauté, de ce peuple que tu as créé. Parce que nous voulons, Seigneur, faire la différence dans cette ville de Longueuil. Nous voulons avoir cet impact pour leur dire combien tu les aimes, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Ce matin, on va essayer de répondre à une question. La question, c'est quel impact une église peut-elle avoir dans notre société, dans ce monde? Alors, évidemment, on a un message qui est extraordinaire, qui est l'amour de Dieu, l'Évangile. Et donc, on a ce message-là à donner. Maintenant, quel impact une Église peut-elle avoir dans un monde individualiste et constamment en mouvement? Parce qu'on vit à une époque de mouvement. On vit dans une société où les choses bougent extrêmement rapidement. Nos vies vont très vite, les nôtres aussi, d'accord? On vit dans notre époque, on vit dans notre société, la vie va très, très vite. Et on croise des gens, et généralement, bien souvent, la majorité des gens qu'on va croiser dans une journée sont un peu comme des fantômes qui passent à côté de nous. Parce qu'on vit une époque de mouvement, parce qu'on vit une époque d'activité, on vit une époque où les choses bougent et les gens bougent sur la planète. Jamais, comme jamais auparavant dans l'histoire, les gens bougent sur la planète. Les gens voyagent. Dans une semaine, il y a plusieurs personnes ici qui prennent l'avion, qui se déplacent, qui s'en vont ailleurs sur la Terre, puis qui reviennent, qui font des allers-retours. On vit à une époque de mouvement. Et dans notre société particulièrement, on vit à une époque où chacun est en train d'essayer de, comme de mettre en place son petit coin de bonheur, sa petite vie. Et ça veut dire que c'est une époque individualiste aussi. Où chacun est occupé à aller faire son petit terrain, son petit chez-soi, sa petite vie où il va pouvoir s'accomplir dans tout ça. Quel impact une église, une communauté chrétienne peut-elle avoir dans cette plus large communauté où Dieu nous a placés? On va répondre à cette question-là à travers le livre des Actes ce matin, en assistant à la naissance d'un peuple nouveau, à la naissance d'une nouvelle communauté au milieu du peuple d'Israël lui-même, pour pouvoir trouver une réponse à ça. Un des sujets qui est très fort dans le livre des Actes, c'est toute la notion de communauté, de communion, de communautaire. Puis évidemment, vous avez des passages qui vous viennent à l'esprit. Et lorsqu'on commence à penser à ça, bien, les premiers passages qu'on pense, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure, où on a l'impression de voir une espèce de commune, hippie, où tout le monde est comme là, puis tu sais, c'est Woodstock, mais comme avec un petit peu d'ordre. D'accord? Tout le monde est en train de mettre les choses ensemble en commun, puis on partage. Mais ça, c'est juste des fruits, des résultats de quelque chose de beaucoup plus grand. Et alors que j'étais en train de me préparer puis que je survolais l'ensemble des Actes, l'élément qui nous aide à saisir cette communauté, cette communion, cette mise en commun, ce partage auquel on assiste, qui sont en réalité des fruits, c'est quelque chose de plus grand que ça. C'est que Dieu est en train de créer une nouvelle communauté, un nouveau peuple. On assiste dans le livre des Actes à la naissance d'un nouveau peuple de Dieu, d'une nouvelle communauté. Et c'est ça la trame de fond qui explique après ça tout le partage et toute la communion qu'il va y avoir. Alors avant d'arriver aux aspects pratiques de ce qu'une communauté chrétienne va faire, va vivre ensemble, comme on le voit, admettons, dans Actes 2, mais ailleurs dans le livre des Actes, il faut saisir que Dieu avait un très, très grand projet. Le projet de Dieu, ce n'était pas simplement qu'une gang de chrétiens partagent ensemble des choses à Jérusalem puis prennent soin les uns des autres. C'est un projet que Dieu avait sur son cœur depuis très longtemps, qui remontait à très loin dans le temps. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Avant le livre des Actes, d'accord? Le livre des Actes, ça se passe quelque temps après Jésus. Plusieurs siècles avant. Dieu annonçait à son peuple des jugements. Dieu s'était donné un peuple, le peuple d'Israël, qui est allé chercher en Égypte, puis il avait formé un peuple. Et ce peuple-là devait être cette communauté-là qui allait être un symbole, qui allait représenter l'incarnation de l'amour de Dieu devant les hommes. Mais Israël va de déception en déception en déception à l'égard de Dieu. Et alors que Dieu est en train d'annoncer ses jugements sur Israël, parce qu'il lui dit, je t'ai choisi pour que tu me représentes. Que tu représentes mon amour. Et Dieu est en train d'annoncer ses jugements. Pendant qu'il est en train de faire ça, à travers la bouche de ses prophètes, il annonce qu'un jour va venir, où du sein d'Israël, du milieu du peuple d'Israël, un peuple va se lever. Une communauté va se lever. Et donc, les prophéties sont nombreuses où il annonce ce peuple qui va être formé du milieu d'Israël et qui va non seulement être formé du milieu d'Israël, du milieu des Juifs, mais auquel va venir s'ajouter des gens de toutes les nations de la terre. Ce peuple-là va être un peuple nouveau. Et on pense à des passages, si vous êtes familier avec les prophéties de l'Ancien Testament, plusieurs dans Ésaïe, évidemment, Ésaïe 25, 7, 42, 6, 49, 6, 55, 5. Je vais vous en lire deux, d'accord? Mais il y a plusieurs passages où il est annoncé qu'un jour Dieu va restaurer en soulevant du milieu de son peuple. Il va former un peuple nouveau, qui va être composé non seulement de Juifs, mais aussi de gens de toutes les nations de la terre. Je vous lis Ésaïe 49, 6. Et ici, l'Éternel est en train de s'adresser à son serviteur. Ce serviteur-là, c'est un Messie, un sauveur qui va venir, qui va relever. Et lui dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, les tribus d'Israël, ce reste-là qui va se relever, et pour ramener les restes d'Israël. » Mais il dit, c'est pas suffisant ça, c'est plus que ça encore. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc Dieu est en train d'annoncer qu'un jour son serviteur va venir, va relever du sein d'Israël un peuple qui va être là, qui va marcher avec Dieu, mais aussi auquel va s'ajouter les gens de toutes les nations de la terre. Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « me voici » à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et Dieu est en train d'annoncer que des gens qui ne le cherchaient pas, des nations de toute la terre, vont répondre à cet appel et vont venir composer ce peuple nouveau-là. Toutes ces prophéties dans l'Ancien Testament étaient liées à la venue d'un Messie. Un Messie, c'est un sauveur, c'est un Christ, un Christos, un sauveur, d'accord? Il y avait un Messie qui était annoncé que les Juifs attendaient. Ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu, ses prophéties se sont réalisées en lui à travers la vie qu'il a vécue, mais aussi à travers le sacrifice qu'il a fait. Et le sacrifice qu'il a fait a rendu possible cette réconciliation avec Dieu, où même le peuple d'Israël qui ne marchait pas avec Dieu pouvait se réconcilier avec Dieu. Et donc, à travers son sacrifice, à travers sa mort sur la croix, sa résurrection, un peuple nouveau va jaillir. Parce que ces prophéties sont en train de s'accomplir à ce moment-là. Un nouvel Israël, en quelque sorte, va jaillir. Et dès le début du livre des Actes, c'est à ça qu'on assiste. Si vous êtes familier avec les Actes, si vous avez été avec nous à travers la série, quand on pense à communauté, quand on pense à communion, quand on pense à communautaire, partage, nous, on pense à y manger ensemble pour voir aux besoins des uns des autres. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça, plus fort, plus beau encore que cet élément-là très, très, très pratique. C'est qu'on assiste à la naissance d'un peuple nouveau qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qui du milieu d'Israël va jaillir. Et il y a ce peuple nouveau qui commence à naître dès le début du livre des Actes. Et c'est à ça qu'on va assister à travers tout le livre des Actes. C'est ce peuple nouveau qui est en train de naître. J'aime comment David Peterson, dans son commentaire sur le livre des Actes, le dit. Le nouvel Israël, dans Actes 2, 3, 4, le nouvel Israël émerge du milieu de l'ancien. Restez avec moi. Le nouvel Israël émerge du milieu de l'ancien. Au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre commence à... Ils ont reçu l'Esprit Saint, commence à prêcher, commence à annoncer, les prophéties se sont accomplies, le Messie qu'on attend, la gang, est arrivé, c'est Jésus-Christ. Et ce n'était pas seulement un faiseur de miracles, quelqu'un qui enseignait avec sagesse, mais il a apporté le moyen de la réconciliation à travers son sacrifice. Et donc, Dieu veut nous accueillir, Dieu veut nous faire grâce. Et il est en train de prêcher, il est en train de prêcher à la foule des Juifs qui sont là à la Pentecôte. Et 3000 personnes vont reconnaître que ce Jésus que les Juifs ont livré aux Romains pour le faire crucifier, c'était bel et bien lui le Messie. Et son sacrifice était l'accomplissement des prophéties. Et lorsque ces gens-là croient, ces gens-là naissent de nouveau. L'Esprit Saint vient sur eux. Et on assiste à ce moment-là à la naissance de ce peuple nouveau. Du milieu d'Israël, un nouvel Israël est en train de jaillir. Parce que du milieu des Juifs, des milliers d'entre eux, pas tous les Juifs, mais des milliers d'entre eux, leurs yeux sont ouverts et ils réalisent que le Christ qu'ils attendaient, le Sauveur, le Messie, c'est Jésus de Nazareth. C'était lui. Et les gens qui croient se rassemblent. Et dès le début du livre des Actes, le langage que Luc va utiliser va parler de l'Ecclésia, l'Église, l'Assemblée. D'accord, nous autres, on utilise le mot « église », puis c'est quoi une église? On arrive ici, puis on dit que c'est un bâtiment. D'abord, ça n'a pas l'air d'une église, comme on l'entend traditionnellement ici. Ça a l'air d'un centre d'achat, parce que c'est ça. T'sais? Mais c'est parce que l'église, ce n'est pas ça. Église vient simplement d'un mot grec qui veut dire « ecclésia », qui parle de l'assemblée. D'accord? C'est un terme qui était utilisé de manière usuelle. Une assemblée publique, il va y avoir des assemblées publiques reliées aux élections. Ça pourrait être une « ecclésia ». Dans ce cas-là, c'est l'assemblée. Et très tôt, Luc commence à l'utiliser. L'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Toute l'assemblée, toute l'Église se réunit pour adorer. Et donc, on voit du milieu d'Israël un nouveau peuple, un nouvel Israël qui est en train de jaillir. Et je ne suis pas en train d'induire ici, d'accord? Parce que là, il y en a qui ont des problèmes eschatologiques. Puis tu dis, attends un peu, un nouvel Israël. Oui, un nouvel Israël. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a abandonné Israël. La preuve, c'est qu'il y en a qui se convertissent ici. Il n'y a pas beaucoup de nations ici, c'est juste des Juifs. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y a encore des Juifs qui réalisent que le Messie est bel et bienvenu, et ça va continuer. Et dans Romains, Paul est très, très clair. Dieu n'a pas abandonné son peuple d'Israël, parce que des gens vont se convertir, vont croire en Jésus-Christ, mais ils vont être sauvés de la même manière, en croyant en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ. Et donc, ce à quoi on assiste ici au début des Actes, c'est un nouveau peuple, une nouvelle communauté du milieu du peuple d'Israël, un nouveau peuple qui est en train de naître au milieu d'eux. Et ce qu'il y a de particulier ici, comme on ne l'a jamais vu dans tout l'Ancien Testament, avec une puissance incroyable, c'est que ce nouveau peuple-là, suivant les prophéties, ne sera pas composé à 99,9% de Juifs, parce que ça arrivait dans l'Ancien Testament qu'il y avait des gens des nations environnantes qui se convertissaient, croyaient, d'accord, et adoptaient la foi en Yahvé. Mais là, on va passer ça à la puissance 10, à la puissance 100, à la puissance 1000. Parce qu'au fur et à mesure que l'Évangile va sortir du milieu de Jérusalem, va commencer à se répandre à travers toutes sortes de facteurs, les persécutions, tout ça, les chrétiens qui réalisent cette grâce qu'ils ont eue en Jésus-Christ vont simplement commencer à partager ça d'un cœur rempli de reconnaissance envers Dieu, d'avoir été accueillis dans la famille de Dieu, vont simplement partager ça. Et oups, ça va commencer à déborder à l'extérieur du milieu d'Israël, vers des gens des nations. Et au fur et à mesure qu'ils vont voyager, des gens de toutes nations qui vont entendre, certains d'entre eux vont croire aussi. Ils vont intégrer cette nouvelle communauté, ce nouveau peuple-là. Et donc, on assiste à un peuple nouveau, non seulement qui sort du milieu d'Israël, mais qui sort du milieu de toutes les nations aussi, qui vient former cette nouvelle communauté, ce nouveau peuple-là. Et partout où une église locale, une église comme ici, une assemblée va être implantée, va naître, vous avez le peuple de Dieu qui est là. À chaque fois, vous avez l'église qui est là. C'est vrai, tous les croyants, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ font partie de l'église universelle à travers tous les temps. C'est vrai. Mais dans le langage de Paul, c'est super clair. Tout à l'heure, je vais lire un passage, je n'aurai peut-être pas le temps de faire la nuance, mais soyez attentifs, d'accord? Lorsque Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse, il parle de l'Église de Dieu qui est rachetée par son sang et il parle de l'Église d'Éphèse. Chaque fois que vous avez une église locale qui est là, vous avez l'Église qui est présente, vous avez le corps de Christ qui est présent, vous avez une assemblée chrétienne qui est présente. Et vous avez donc une communauté qui sort du milieu des nations autour de nous. Longueuil est de plus en plus cosmopolite dans ses origines, n'est-ce pas? Du milieu des nations. Les gens entendent l'Évangile, ils se réunissent autour de la croix de Jésus-Christ, un peuple naît, un peuple composé de toutes les nations. Pourquoi est-ce que c'est important de souligner ça? C'est parce qu'évidemment, si tu saisis l'Évangile, et puis tu réalises que tu sors du milieu des Juifs, puis tu réalises que Christ est venu mourir sur la croix pour toi, et puis que progressivement ce message-là va être apporté à toutes les nations de la terre, et que des gens vont croire un peu partout sur la terre, ça veut dire qu'il y a un mot. Il y a un mot qui est constamment, qui décrit peut-être le mieux cette communauté-là, et c'est le mot « accueil ». À travers le livre des Actes, une constante qui, à travers tout le livre des Actes, c'est cet accueil au sein de la communauté. Les gens qui sont là dans Acte 2 sont accueillis, ils sont là les uns pour les autres. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est accueilli. Mais au fur et à mesure que l'Évangile va aller vers les nations, va sortir du milieu des Juifs, et il va commencer à avoir des gens qui vont croire en Jésus-Christ. Puis les nouvelles sont rapportées à Jérusalem de dire, vous devriez voir les milliers de non-juifs qui se convertissent. Qu'est-ce qui se passe à cette nouvelle-là? L'Église de Jérusalem se réjouit. Ils sont contents. Ils sont accueillants. Ils sont accueillants. Ils sont simplement heureux de voir ces gens venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, cette idée-là, ce langage-là d'accueil, c'est ça qui décrit le mieux, je pense, cette nouvelle communauté-là, où tout le monde, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta nationalité d'origine, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta culture, que tu sois grand, petit, gros, laid, beau, on s'en fout. T'es accueilli. Parce que Dieu est en train de se donner un peuple nouveau. Un peuple nouveau. Et ça caractérise l'Église et toutes les églises locales à travers le livre des Actes. C'est ça qui doit nous définir comme Église, cet accueil-là. Il n'y a pas de profil pour rentrer dans l'Église, parce que tout le monde est accueilli partout sur la terre. Parce que Dieu est en train de se donner un peuple nouveau. Voici comment Paul le décrit justement dans Actes 20-28. Il parle de l'Église. Il parle de l'Église et il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » Il parle aux anciens. Et il leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant ou évêque pour paître l'Église, l'Assemblée du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » L'Assemblée du Seigneur, l'Assemblée de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Dieu s'est acquis un peuple, du sein d'Israël et du sein de toutes les nations, qui forment un peuple nouveau. Et ce peuple-là est caractérisé par l'accueil, parce que c'est Dieu qui se l'est acquise au prix de son propre sang. Et lorsqu'on arrive après ça à des choses pratiques comme être là les uns pour les autres, partager un repas, partager des biens pour prendre soin les uns des autres, être chaleureux, manger ensemble, puis s'accueillir. Il faut premièrement avoir cette vision-là en tête. Christ s'est acquis, Dieu s'est acquis un peuple au prix de son propre sang. Et le terme « accueil » doit être constamment sur nos lèvres et dans notre cœur. Parce qu'à travers tout le livre des Actes, on voit des gens de toute nation, de toute origine, avec tout ce que ça veut dire comme bouleversement, tout ce que ça veut dire comme changement. Lorsque les gens de Jérusalem ont eu la nouvelle que des gens de toutes les nations se convertissaient, ils ont dit, « T'es un peu pompon, on a de la misère à s'entendre, nous autres, juste entre Juifs, avec toutes nos règles de l'Ancien Testament, là, il va y avoir du nouveau monde qui va rentrer dans la famille, ils vont changer un paquet de règles, ça va venir changer un paquet d'affaires, mais en qu'ils vont changer des affaires. » Eux autres, ils mangent des choses que toi, tu ne manges pas, puis ils ne fêtent pas des fêtes que toi, tu fêtes, puis donc ils sont très, 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 très différents. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réaction de l'Église? Ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Voyez-vous, l'accueil, c'est la marque. C'est une des marques de cette nouvelle communauté-là. Donc, premièrement, lorsqu'on pense à la communauté, à la communion, aux communautaires à travers le livre des Actes, il faut toujours garder à l'esprit que Dieu est en train de créer une nouvelle communauté, un nouveau peuple. Et cette nouvelle communauté-là n'existe que par grâce, que par la grâce. Le fondement de cette communauté, c'est la grâce. Chaque société a un fondement. Nous autres, on vit dans une société, on va dire qu'on vit dans une société de droit, n'est-ce pas? On vit dans une société de droit où tu as des obligations, des droits, puis il y a des règles pour fonctionner ensemble. Chaque société a un fondement, a des fondements. On vit dans une société de droit, c'est pratique, c'est fonctionnel, puis j'ai des obligations, des choses à faire, tout ça, et puis on va te tenir à respecter ces choses-là, puis on va demander à la société de respecter ces choses-là envers toi. Le fondement de cette nouvelle communauté-là, c'est pas le droit, c'est la grâce. Le fondement de cette Église, de cette nouvelle communauté qui sort du milieu d'Israël, c'est la grâce. Ce n'est pas une société de droit, c'est une société de grâce. Vous savez, on parle beaucoup de charte de ce temps-ci au Québec. La charte des valeurs québécoises. Évidemment, ça a rapport avec la charte des droits et libertés de la personne. Puis avec ça, on se donne des règles pour fonctionner en société. Puis on voit les gouvernements qui essaient de jongler avec tout ça. Pour l'Église ici, dans les Actes, pour l'Église ici de l'espoir, si on avait une charte à adopter, ce serait la charte des graciés. Ce ne serait pas la charte des droits et libertés de la personne, parce que ce n'est pas le fondement qui nous unit. Ce n'est pas là qu'on trouve la règle de conduite pour nous. Ce ne serait pas la charte des valeurs de l'Église de l'espoir. Non, c'est la charte des graciés. Parce que le fondement de cette communauté ici, de toutes les communautés chrétiennes, de toute la communauté chrétienne dans le monde, c'est la grâce. C'est la grâce constamment. Laissez-moi l'illustrer comme ça, d'accord? Un pays, on parlait d'immigration ce matin, d'accord? Lorsqu'un pays décide qu'il veut recevoir des immigrants, à l'exception des réfugiés, d'accord? À l'exception des réfugiés, mais dans tout le reste, pour tout le reste, on va se donner des règles. Puis on va dire, on est en train de bâtir un pays ici, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut inviter des immigrants, on a besoin d'autres personnes qui vont venir construire avec nous. On va définir ce qu'on a besoin comme immigrant. Et donc, la règle pour savoir si tu vas pouvoir venir comme immigrant, c'est qu'est-ce que tu vas apporter ici? Qu'est-ce que tu vas apporter dans cette société-là? Est-ce que tu as quelque chose à nous apporter pour construire? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça se comprend. Je comprends. Et puis, si tu viens chez nous, on va te demander d'accepter aussi qu'on t'accorde un privilège. Parce qu'on était là avant, on est en train d'organiser les affaires ici, tu sais, puis... Bien honnêtement, ça marchait assez bien avant que tu arrives, tu sais, fait que tu es juste là comme... On te demande de respecter comment ça fonctionnait ici. On t'offre un privilège. Tu viens vivre dans notre beau pays. Ça, c'est l'immigration. Quand une communauté chrétienne se tourne vers l'extérieur, pas la même affaire qui se passe du tout. On n'est pas dans une communauté de droit. On est dans une communauté de la grâce. Notre charte à nous, c'est la grâce. Et lorsqu'on se tourne vers l'extérieur, c'est pas pour aller voir les gens puis dire « celui-là, je pense qu'il y aurait quelque chose à nous apporter, on aurait besoin de ça. » On va aller te voir pour voir ce que tu pourrais apporter ici. Non, notre lien, notre point en commun, c'est qu'il n'y a pas personne qui a apporté quelque chose ici. Voyez-vous? Je l'illustre avec ça, d'accord? Ici, c'est pas la communauté des parfaits qui étaient dispersés dans la grande société québécoise et qui un jour ont dit « il m'arrive une fois de temps en temps de croiser un parfait. Il me semble qu'on devrait se réunir ensemble. On pourrait faire le café des parfaits, puis on prendrait un petit partage. On va avoir un agape des parfaits aussi ensemble. Puis de temps en temps, bien, on va aller voir quelqu'un qui n'est pas un parfait comme nous, un petit noir dans son petit coin. Là. Lui, tu sais, il n'est pas aussi bien que nous, celui-là. Il a des imperfections. Puis peut-être qu'on va pouvoir le nettoyer puis l'entrer dans la gang des parfaits. Pas comme ça que ça marche. On était toute une gang d'imparfaits. Tous salis par notre nature pécheresse. Il y a des petits bonhommes, là, si vous ne les voyez pas, là. Ils sont là. Il n'y a personne de parfait. Et Dieu nous a lavés par sa grâce. C'est lui qui a produit un peuple qui est parfait. Alors, lorsqu'on se tourne vers l'extérieur, c'est jamais la question, est-ce que tu peux apporter quelque chose? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter ici? Puis juste en passant, là, moi, ça fait un bout de temps que je suis dans cette église-là, tu sais, puis on a installé les affaires, fait qu'il faudrait pas que tu déranges trop en arrivant. Parce que j'ai acquis des droits avec le temps, tu comprends? Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, on est toute une gang de gracie, on est ici par pure grâce. Et parfois, avec les années de vie chrétienne, on oublie ça. Parce qu'on commence à être confortable. Puis le café des graciers se transforme un petit peu. C'est les graciers qui ont des droits acquis. Parce que ça fait un bout de temps qu'on est ici. La vérité, là, les amis, là, c'est qu'ici, on est toute une gang de réfugiés. On est juste des réfugiés. Il n'y a personne qui est ici parce que Dieu l'a regardé un matin et a dit, « Toi, je veux t'avoir dans ma gang. » Il n'y a personne. Et tout ce qu'on avait à dire, c'est, « J'ai besoin d'un refuge. J'ai besoin d'un refuge. J'ai besoin d'un refuge. » Ce refuge-là, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et j'ai trouvé des gens qui incarnent ça, qui me parlent de cette grâce-là. C'est un camp de réfugiés ici. Vous comprenez? Des réfugiés de la grâce, c'est ça qu'on est. Et ça, on ne doit jamais le perdre de vue. Parce que lorsqu'on le perd de vue, on commence à penser à quelque part qu'on méritait d'être ici. Puis on commence à regarder à l'extérieur en disant, « Mais regarde-moi donc ça. » Israël oubliait constamment d'où il venait. Constamment, Israël oubliait d'où il venait. Il ne réalisait pas qu'il avait été gracié d'être sauvé d'Égypte, de l'Égypte. C'était une grâce. Mais je dois me rappeler qu'on est dans un camp de réfugiés ici. Et il n'y avait personne qui avait quelque chose à apporter. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous a accueillis. Et ce que ça va produire, c'est une communauté qui est motivée par la reconnaissance. Constamment, on va être motivé par cette reconnaissance-là. Et c'est ça qu'on voit à travers le livre des Actes. Qu'est-ce qui fait que vous avez une gang de Juifs qui ont cru en Jésus-Christ puis qui ont des histoires? Écoutez, c'est des siècles d'histoires où ils ont compris que c'est comme ça que ça marche, marcher avec Dieu. Puis là, tout d'un coup, il y a plein de gens des nations qui se convertissent, qui deviennent chrétiens. Puis là, on dit, oui, mais attends un peu, ils n'ont pas la même histoire que nous. Ils n'ont peut-être pas besoin d'observer tout ça parce que beaucoup de ces lois-là se sont accomplies en Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'on va devoir faire ça? Qu'est-ce qui fait que dans ces cœurs-là, il y a cet accueil? C'est la grâce. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance de réaliser que je n'ai rien apporté, moi, pour mériter d'être ici, dans cette communauté-là. Je n'avais rien apporté puisque j'étais pécheur. Et c'est Dieu qui m'a tout donné, qui m'a fait grâce en Jésus-Christ. Cette nouvelle communauté-là porte des marques. Et là, on va devenir un petit peu plus concret, un peu plus pratique. J'ai essayé de résumer cette idée-là de communauté, de communion, de communautaire à trois marques, d'accord? Certaines que j'ai déjà mentionnées. Premièrement, l'accueil. Deuxièmement, l'amour. Troisièmement, le partage. L'accueil. On est dans une communauté de grâce. Il n'y a personne qui est ici pour ses beaux yeux parce qu'il était plus fin ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui se passe dans le livre des Actes. C'est une communauté où tout ce que je veux faire, c'est de partager la grâce de ce que Dieu a fait. Tu n'as pas besoin de qualifier en rien pour venir au milieu de nous. On est prêt à t'accueillir. Et c'est ça qu'on ressent lorsqu'on lit le livre des Actes. C'est ça qu'on voit dans Acte 2, dans Acte 4, mais après aussi dans la réponse des chrétiens de Jérusalem aux conversions. Constamment, c'est ça qu'on voit. On voit cet accueil-là qui est là constamment. Ils sont en train d'accueillir parce que tout le monde est bienvenu. Paul va dire plus tard, pour parler des relations entre les chrétiens, il va dire dans Romains, « Accueillez-vous comme Christ vous a accueillis. » Alors même dans nos rapports les uns envers les autres, cet accueil-là doit être constamment là. Et notre poursuite de la sainteté, du fait qu'on veut devenir de plus en plus à l'image de Christ, doit jamais, jamais venir fausser cette compréhension-là. J'accueille un pécheur parce que j'ai été accueilli en Christ. Et donc, dans nos rapports les uns avec les autres, cet accueil-là doit être une saveur, ça doit être un parfum qui est là constamment dans nos rapports les uns envers les autres. Et lorsque la première chose que je fais, c'est de déposer un regard de jugement, j'ai oublié que j'ai été gracié, que je suis gracié. Et donc, c'est vrai pour nos rapports les uns avec les autres, c'est vrai pour nos rapports avec l'étranger. Tout à l'heure, je posais la question au début en disant, mais quel impact une église peut avoir dans une société qui bouge aussi vite qu'aujourd'hui? Quand quelqu'un met le pied ici, quand quelqu'un arrive dans ton petit groupe, puis il y a juste comme son ami qui le connaît, qui l'a invité, c'est la place où cette personne-là devrait se sentir le plus accueillie dans toute la ville de Longueuil. Quand les gens viennent ici un dimanche matin, je rencontre quelqu'un qui je ne le connais pas, puis je découvre que c'est la première fois qu'il vient ici. Pourquoi pas avoir le réflexe de dire, hey, tu viens-tu dîner chez nous? C'était pas prévu, mais on va s'arranger. Viens dîner chez nous. Les gens ne devraient pas venir ici en visite puis repartir sans avoir été accueillis. Ça n'a pas de bon sens. Parce que le parfum, la saveur, l'odeur de Christ, c'est cet accueil. Lui nous a accueillis. Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ. Et donc, quel impact une communauté comme ça peut avoir? C'est énorme. Parce qu'on vit dans une société où il n'y en a pas de communauté. Vous comprenez si je vous disais, définissez la communauté de la Rive-Sud. Ben, c'est une société de droit avec des priorités comme la consommation. On partage le Walmart ensemble. Puis la route pour se rendre au Walmart. C'est ça qu'on partage? Le Walmart, la route pour aller au Walmart, c'est à peu près ça qu'on partage. De temps en temps, il y a quelqu'un qui est mal pris, puis là, on rouvre un petit peu plus la relation. C'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Il y a des gens qui sont généreux, qui veulent aider. Mais je veux dire, le day-to-day, là, c'est pas ça. Alors, quel impact une communauté qui est accueillante peut avoir? C'est énorme. C'est énorme. Ça peut faire toute la différence. Il y a toujours de la place pour une personne de plus. C'est pas parce qu'il y a une espèce de culture qui s'est développée au sein de la communauté. Puis, écoute, nous, ça fait 20 ans qu'on marche ensemble. Là, fait qu'on a appris que c'est comme ça qu'on loue ici. Le dimanche matin, la louange, ça se passe comme ça. Puis là, toi, t'arrives d'ailleurs, puis t'es un peu flyé, bonhomme. Non, il va y avoir premièrement cet accueil-là. Premièrement, cette ouverture-là. Premièrement, cette attitude-là. Constant, oui, mais t'es différent, tu t'habilles autrement. Premièrement, cet accueil-là. Premièrement, cette ouverture-là. Oui, mais c'est comme ça ne connecte pas. On dirait que parce qu'il parle autrement, on n'arrive pas à se rejoindre. C'est sûr que vous rejoignez, c'est un pécheur, t'es un pécheur, vous avez tellement de choses en commun. Puis il est gracié, puis t'es gracié. Ouf, vous avez encore beaucoup de choses en commun. Puis vous avez le facteur fondamental pour vous rejoindre, Christ, qui vous a accueilli. Si tu es le dernier arrivé, on va prendre soin de toi, on va aller te présenter, on va aller te présenter aux gens. Un bel exemple concret, je vais donner un exemple concret, parce que depuis quelques années, mes enfants vont à la jeunesse, puis ils ne sont pas là, fait que je peux les louanger, ils vont quand même partir. Mes enfants vont à la jeunesse, ça m'a frappé. À plusieurs reprises, quand je suis allé à la jeunesse Boomerang, de voir l'accueil qu'il y avait là, de différentes manières. Accueillir des gens différents, accueillir des personnes nouvelles. Mais pour ceux qui ont passé par la jeunesse dans leur vie chrétienne, tout ça, vous savez qu'à un moment donné, quand ça va bien, il y a une espèce de noyau tête hein, qui se construit, puis on est comme la gang ensemble. Il y a quelques années, mais t'étais rendu avec la gang des plus vieux. Puis là, il y a eu une espèce de vague de jeunes qui sont arrivés en même temps. Puis là, wow, comment on va, comment ils viennent comme péter nos affaires, tu sais. Puis là, les plus vieux, vous savez, hein, l'adolescence, les pensées changent vite, ça évolue, les manières de réfléchir. Puis là, les flows arrivent, puis tout ce qu'ils veulent, c'est aller faire du sport, puis blablabla, puis ils sont ailleurs, tu sais. Mais j'ai vu cette génération-là, 3 ans plus vieux, accueillir les plus jeunes. Chaque fois que je suis allé là-bas, j'ai été frappé par cet accueil-là. Puis des fois, je pose des questions à mes enfants. Puis lui, comment il s'intègre? Ça va super bien. L'autre fois, j'en jasais avec lui et tout ça. Je ne vous dis pas que c'est parfait, d'accord? Mais j'ai vu que c'était une caractéristique qui était là, cet accueil qui est présent. Il y a un couple dernièrement qui est venu me voir. Puis il m'a dit, Yannick, on veut bouger, on veut s'impliquer. On ne sait pas encore exactement quoi faire. On attend que tu nous donnes des nouvelles. Mais on veut juste te dire, n'importe quand, tu nous présentes quelqu'un dimanche matin, on l'invite à dîner. N'importe quand, notre foyer est ouvert, OK? Fait que vous nous le dites, puis on reçoit à dîner. Wow! Ça, c'est concret. L'accueil. Dans nos maisons, dans nos petits groupes, le dimanche matin. Inviter des gens à se joindre à votre petit groupe, à venir trouver cette communauté-là. Une deuxième caractéristique, une deuxième marque, c'est l'amour en tout temps. Ça, c'est super important. Dieu veut former en nous Christ. Il veut nous amener à vivre dans la sainteté. D'accord? C'est ça que Dieu veut faire. Hein? Dieu ne nous a pas seulement fait grâce pour qu'on reste dans l'état où on était. Il veut nous faire grandir, nous faire marcher dans la sainteté. L'amour en tout temps, même dans la poursuite de la sainteté. Constamment. Et cet amour-là est évident dans le livre des Actes. Cette grâce-là est là. Des fois, tu deviens chrétien, puis là, tu te joins à l'Église, puis là, à un moment donné, tu réalises que, ouf, cette communauté de grâce-là, je ne sais pas pourquoi Dieu leur a fait grâce, c'est des pécheurs. C'est pour ça qu'il leur a fait grâce. Non, mais tu découvres l'Église, puis tu te dis, c'est parce que, tu sais, il y en a qui font pic-pic ici. Je ne sais pas qui d'entre vous connaissait Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur protestant allemand qui était pasteur sous le régime nazi, et qui a vu la complaisance de l'Église d'État, tout ça, collaborer un peu avec le régime ou n'a pas confronté. Et il a posé des gestes très, très concrets, en fait, qui l'ont conduit jusqu'à la pendaison. D'accord? Mais un homme remarquable. Et j'aimerais ça vous lire une citation. Quelque chose qu'il a écrit dans une petite plaquette. Ce petit livre s'appelle « De la vie communautaire ». Si vous voulez saisir la notion de communauté chez les chrétiens, lisez ça. D'accord? Et je vous lis ça, parce que ça va vous provoquer un peu. Il a écrit ça lorsqu'il était en prison. Et il s'ennuyait de la communauté des frères, la communion des frères et sœurs. Voici ce qu'il dit. « Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut même que nous soyons déçus. Déçus par les autres, déçus par nous-mêmes. » Dans sa grâce, Dieu ne nous permet pas de vivre, ne serait-ce que quelques semaines, dans l'église de nos rêves. Dans cette atmosphère d'expérience bienfaisante et d'exaltation pieuse qui nous enivre. Car Dieu n'est pas un Dieu d'émotions sentimentales, mais un Dieu de vérité. Et peut-être que tu as découvert l'église de Jésus-Christ et tu as dit, plus je découvre ça, plus je découvre ce sont des pécheurs. C'est parce que la vérité, c'est que ce qui nous unit, ce n'est pas la qualité de nos sentiments puis qu'on est toujours là. C'est qu'on est dans un camp de réfugiés ici. Dieu nous a accueillis par sa grâce. Et je m'accroche à cette vérité-là pour aimer les autres, pour aller vers les autres. Et donc, on demeure des pécheurs. Et cet amour-là qui m'a été donné par Dieu doit prendre toute sa place dans mon cœur et je vais aimer l'Église, même si elle est comme ça. Tu veux savoir comment l'Église devrait être? Elle devrait être plus mature. Mais cherche-la pas ailleurs. Elle est ici. Pas parce que celle-ci est meilleure que les autres. Les autres, tu vas voir, sont pareils. C'est encore des pécheurs. Mais tu découvres que c'est une gang de pécheurs. Bien, lisez le livre des Actes, vous allez le voir assez vite aussi. C'est un camp de réfugiés où il y a des péchés. Il y a des péchés qui sont là. Mais l'amour doit être une caractéristique au milieu de nous, même dans la poursuite de la sainteté. Et enfin, dernièrement, le partage. On a lu tout à l'heure dans Acte 2, laissez-moi vous lire, dans Acte 4, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le livre des Actes, puis au début, c'est comme, ouh, ça fait peur. Mais ces gens-là, la reconnaissance les pousse à partager. Et il y a une culture qui s'installe dès le début du livre des Actes où je veux juste être reconnaissant, je veux juste partager, je veux juste faire du bien. Alors, on les voit qui commencent à manger ensemble, partager des repas ensemble. Puis là, en entrant en contact les uns avec les autres, ils apprennent qu'il y en a un qui est mal pris, il est dans le besoin. Et là, il y a une culture de partage qui s'installe, de partage de mes biens, d'accord? Puis au début, c'est impressionnant parce que là, ils nous ont dit, oui, mais là, ils mettaient les choses en commun, puis il y en a qui vendaient des biens pour pouvoir répondre aux besoins de l'autre. Maintenant, si on lit attentivement le livre, c'est pas que tout d'un coup, tout le monde a tout vendu ses biens. Parce que le passage dit bien qu'ils se réunissaient dans les maisons, d'accord? Donc, dans les maisons de quelqu'un. Fait que les gens gardaient des choses. Mais au fur et à mesure qu'il y avait des besoins, il y en avait qui avaient les moyens de venir en aide et leur réflexe, c'était un peu comme on va le dire aujourd'hui, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. La jeunesse s'en va au camp des boulots, il y a quelqu'un qui nous appelle, qui dit hey, « Yannick, tu as une vanne, on peut-tu prendre ta vanne? » « Tu peux-tu prendre ma vanne? Tu peux-tu prendre ma vanne? » « Ben oui, tu peux prendre ma vanne, je prêche dans Actes cette semaine. C'est sûr que tu peux prendre ma vanne! » C'est comme ça que ça s'est passé dans ma tête cette semaine. Pour de vrai! Comprenez? Et donc, on voit cette culture-là qui s'installe tout de suite au début, qui va continuer. Et c'est pas que tout d'un coup, les gens vendent tous leurs biens puis ils n'ont plus rien à eux. C'est pas ça. Au contraire, plus on avance à l'intérieur du livre des Actes, on voit qu'il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, mais justement, leur manière de voir leur bien matériel, leur manière de voir leur temps, de voir leur énergie, c'est pour le bien commun que ça m'a été donné. Et donc, si ça peut te venir en aide, c'est génial, ça va me faire plaisir. Et donc, chaque fois, ce que j'ai à moi pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on voit à travers tout le livre des Actes. On va même voir des églises qui ont à cœur d'aider d'autres églises. Donc, ce n'est pas simplement localement que ça se passe. Les églises vont prendre à cœur d'aider d'autres églises locales ailleurs et vont ramasser des fonds parce qu'il y a une église qui est plus riche qu'une autre église. Cet esprit-là de dire, c'est à toi, Seigneur, si ça peut être utile, si ça peut permettre d'illustrer, de manifester, d'exprimer ton amour, ça va me faire plaisir de le faire, Seigneur. Et là, certains d'entre vous vous dites, ouais, mais attends un petit peu, il y a plein d'affaires qui vont survenir, il peut y avoir des abus qui vont venir. Oui, bon, on pourrait aller voir ensemble ce que Dieu fait avec Ananias et Saphira. Il va y avoir de l'ordre dans tout ça, d'accord? Il va y avoir de l'ordre qui va être apporté. Ceux qui ne veulent pas travailler, Paul est très clair plus tard dans les Épîtres, il va dire, celui qui ne veut pas travailler ne mérite pas de manger. Dieu t'a donné la santé, tu dois aller travailler pour contribuer, pour pouvoir, justement, pouvoir aider quelqu'un qui ne peut pas le faire. Quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, on va voir l'aide qui va être apportée aux veuves à certains moments donnés, des dames qui n'avaient peut-être pas les ressources. Et l'Église va pourvoir. Et les choses vont s'organiser progressivement. Mais cet esprit de partage-là est une caractéristique, une marque de l'Église du livre des Actes. Dans le livre des Actes, on assiste à la naissance d'une nouvelle communauté. Un nouveau peuple de Dieu qui sort du milieu d'Israël. Et qui va être tellement accueillant que des gens de toutes les nations de la terre vont pouvoir venir avec toutes leurs différences culturelles, nationales. Ils vont parler d'autres langues, mais ils vont être accueillis, constamment accueillis. Parce que le fondement de cette communauté-là, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. La charte qui les gouverne, c'est la charte des graciés. Qui fait que lorsqu'on se tourne vers l'extérieur, c'est simplement pour partager la grâce qui nous a été faite. Cette Église-là peut avoir un impact incroyable à une époque et dans une société où les choses vont tellement vite qu'il n'y a plus de communauté. C'est presque plus présent, ça. Mais ici, il y a une communauté. Communauté de réfugiés de la grâce. Qui, poussés par la reconnaissance, sont là pour accueillir. Accueillir tout le monde. Il n'y a pas de profil pour être accueilli ici. On ne t'accueille pas pour ce que tu vas apporter. On n'a rien apporté, aucun d'entre nous. On t'accueille parce que Dieu nous a donné sa grâce. Et on va t'aimer. On va t'aimer. Tu ne seras pas rendu, tu ne seras pas parfait, tu ne seras pas saint. On est tous dans le même bateau, mon homme, je te le dis. On va t'aimer dans notre poursuite de la sainteté. Puis on va être là pour partager. Pour partager comme Dieu nous a partagé son amour. Concrètement, très concrètement, on va être là pour partager. Et Jésus dit que personne qui va perdre parents, amis, maison, à cause de son nom, qui ne trouvera pas ça au centuple dans le royaume de Dieu. Concrètement, ça veut dire d'accueillir les gens qui entrent ici et de dire est-ce que ça va? Et lorsqu'on entend qu'il y a un besoin, être là. Puis regarder mes biens, mon temps, ma vie autrement, comme toutes des opportunités de partager, d'être là pour aider. J'aimerais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. On va prier ensemble. J'aimerais ça vous demander de, encore une fois, de prier pour la retraite des anciens vendredi et samedi, d'accord? Parce qu'à travers les 11 semaines que j'ai prises pour chercher la face de Dieu puis travailler sur la vision pour les années qui viennent, ce volet-là aussi est très présent. Cet aspect-là de cet impact que Dieu nous appelle à avoir dans la grande communauté du Grand Longueuil, si je peux dire, et l'impact que cette communauté-ci peut avoir là. Et ça, c'est énorme. Alors, soyez dans la prière avec nous cette semaine pour que Dieu vienne éclairer, qu'il vienne nous guider à travers ça. Parce qu'on peut avoir un impact énorme dans le Grand Longueuil en ayant ces qualités-là. On va prier ensemble. Père éternel, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce en Jésus-Christ. Tu m'as accueilli, Seigneur. Dans ta grâce, tu m'as accueilli. Seigneur, il n'y a personne ici qui peut se vanter d'être venu à toi en apportant quoi que ce soit. Ce qu'on a apporté, Seigneur, c'est notre besoin de toi. Ce que j'ai apporté, c'est mon besoin de ta grâce. Ce que j'ai apporté, c'est mon besoin de ton amour. C'est mon besoin de ton pardon, Seigneur. Et parce que tu m'as fait grâce, une vie nouvelle est née en moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je suis rempli de dons. C'est vrai, pour te servir. Mais c'est la grâce, Seigneur. C'est la grâce qui me porte. C'est la grâce qui m'a sauvé. C'est la grâce qui me transporte. C'est la grâce qui me pousse vers cette reconnaissance. Seigneur, je veux te prier pour cette Église, pour cette communauté que tu as appelée du milieu des nations, du milieu de cette ville. Des gens qui littéralement viennent d'un peu partout sur la terre même, de toutes sortes de nationalités, de toutes sortes d'histoires différentes, Seigneur. Viens nous remplir de ton esprit. Viens nous remplir de cet esprit de grâce, Seigneur. Afin que cette communauté soit marquée par l'accueil, marquée par l'amour, marquée par le partage. Et que ces marques-là, ces qualités-là, Seigneur, rendent le message de l'Évangile tellement plus sensé, tellement plus logique, Seigneur, que lorsque les gens nous rencontrent et qu'on leur explique l'Évangile, ils comprennent enfin pourquoi il y a cet amour ici, Seigneur. C'est à cause du message de l'Évangile, de ta grâce. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. On va avoir tout un impact à Longueuil. Amen. Par la puissance de l'Évangile.